Bonjour tout le monde, bienvenue dans l'émission Espado Club. Je suis Emma et aujourd'hui je suis avec Alexandre.
Bonjour.
Louise, Ikatame, Nora, Moon, Elisa, Zélie, Didier.
Bonjour Emma.
Et Evans.
Bonjour Emma.
Nous allons vous présenter plusieurs sujets similaires l'un de l'autre, en commençant par une table ronde avec un débat autour de la sexualité. Juste après, nous aurons Taren avec Angèle. Ensuite, une chronique faite par Alexandre, une autre chanson normale d'Eddie de Preto, un texte de Didier. Nous commençons donc par la table ronde.
Lors de nos discussions pour préparer cette émission, nous avons choisi d'aborder le thème de l'éducation sexuelle à l'école. Un sujet important qui fait débat dans la société, qui nous concerne toutes et tous.
J'ai déjà eu quelques cours d'éducation sexuelle, mais uniquement en quatrième. Depuis, on a eu seulement deux cours en troisième, mais au lycée, on n'a jamais eu de cours.
Elisa ?
J'en ai pas encore eu, j'en ai en fin quatrième, donc fin de cette année.
Oui, Zélie ?
J'ai déjà eu un cours d'éducation sexuelle de 2 heures en troisième, où c'était tourné sur une discussion avec des questions et des réponses.
Avez-vous déjà discuté ou évoqué les relations amoureuses au collège ou au lycée ? Alexandre ?
Oui, on a souvent évoqué, surtout avec les amis, que ce soit au collège ou au lycée, souvent on parle des relations amoureuses, etc. Mais c'est rare qu'on parle réellement de la sexualité.
Emma ?
Oui, plutôt comme Alexandre, plutôt avec des amis et... ouais, des camarades de classe, tout ça, mais c'est vrai que avec que ce soit des professeurs ou quoi que ce soit, on n'a jamais vraiment parlé de ça.
Zélie ?
Moi, je rejoins Alexandre sur le fait qu'on en parle beaucoup avec des amis, mais pareil, les professeurs, pas du tout.
Est-ce le rôle des professeurs d'éduquer à la sexualité, selon vous, Emma ?
Je pense pas. Je pense que ce serait plutôt des professionnels de le faire, parce que des professeurs, de base, c'est juste pour nous apprendre les cours. Et donc, ils sont basés sur leurs matières respectives et donc pas sur ce genre de sujet.
Oh, mais il y a le prof de SVT.
Oui, mais le prof de SVT, il n'est pas sur ça, je trouve. Enfin, je sais pas. Genre, il est plutôt sur le corps humain en général, mais pas sur forcément l'éducation sexuelle. Après, c'est mon avis. Hein.
Je suis plutôt mitigée sur la question. Je ne pense pas totalement que ce soit non. Parce que certaines personnes vont pas forcément sur les réseaux ou n'ont pas forcément des parents ouverts d'esprit. Donc je pense que l'école, ça permet entre autres d'apprendre aux jeunes la vie de tous les jours et entre autres la sexualité, vu que c'est une part importante de nos vies. Du coup, je pense que c'est important, même s'il faudrait que ce soit mieux encadré, qu'il y en ait plus et que les profs soient sensibilisés à ça.
Je penserais plus qu'il faudrait avoir un prof spécialisé pour ça à l'école. Comme quand on était en 6e, on avait un prof spécialisé pour le CDI, apprendre les livres et tout. Genre où ils sont dans le truc.
Ou que les profs ils soient formés là-dessus peut-être aussi.
Je pense que...
Une formation.
Après, il faudrait peut-être avoir un prof juste une année ou une moitié d'année dessus, non ?
Je pense qu'il ne faudrait pas forcément un prof spécialisé là-dedans, mais simplement des professeurs qui aient reçu quelques cours ou qui aient reçu une sensibilisation là-dessus et qui puissent en parler sans que leur jugement soit biaisé par leurs convictions, par leur façon de faire, etc.
Oui, alors moi j'ai une question qui me vient. Est-ce que dans le cadre du lycée ou du collège, vous avez l'occasion de rencontrer l'infirmière scolaire qui pourrait être quelqu'un qui pourrait aborder ça justement avec vous ?
Moi, ma infirmière, elle n'était pas trop présente pour les élèves, donc malheureusement non. Mais j'avoue que ça aurait été une bonne idée de pouvoir en parler avec elle parce que je pense que c'est dans ses formations. Après, j'en sais rien, je presse.
Alors moi, oui, parce que c'était l'infirmière qui avait mené le groupe de discussion. Après, par contre, elle n'était pas du tout, renseignée sur tout ce qui était homosexualité, etc. Quand il y avait des questions, elle recherchait sur Internet, donc voilà.
J'ai pas eu d'infirmière dans mon collège, mais dans mon lycée, je pense qu'on peut aborder le sujet avec elle. Mais malheureusement, on n'a pas souvent l'occasion de la voir. Donc je pense qu'il faudrait des choses mises en place pour qu'on puisse voir l'infirmière plus souvent.
Comme des sortes d'interventions, en fait.
Oui, ou même qu'on en parle plus parce que on nous parle même pas où elle se situe forcément, ou quel est son travail, etc. On la voit uniquement quand on est malade. Et je pense que l'infirmière du collège ou du lycée, on n'en parle pas assez. Evans ?
Oui, alors moi j'ai un petit témoignage par rapport à l'infirmière du collège. Alors pour mes enfants, ça a été, alors ils m'ont fait un retour un peu de leur expérience au collège. Effectivement, l'infirmière était tellement mal à l'aise avec le sujet qu'elle a été odieuse avec les jeunes, avec beaucoup d'a priori et beaucoup. Avec pas beaucoup de tact, en fait. Elle a abordé le sujet vraiment... on sentait qu'elle était mal à l'aise avec le sujet.
Êtes-vous gêné d'en parler et vous êtes-vous senti libre d'exprimer ou de poser vos questions, Alexandre?
Je me suis pas forcément senti gêné d'en parler. Par contre, je trouve qu'il n'y avait pas assez de place pour les questions ou alors des questions assez basiques. Mais je trouve qu'on peut en parler, mais à une certaine limite, que quand ça rentre dans le cadre... assez traditionnel, on va dire.
Moi, personnellement, c'était assez compliqué parce que on va plutôt parler qu'au collège, c'est fort jugement. Enfin, ils sont très que ce soit surtout les élèves et tout ça, enfin les camarades de classe. Et donc forcément, c'était quelque chose genre décomposer quelque chose dans ce sujet-là, c'est assez compliqué d'en parler parce que. Les gens, ils n'étaient pas très ouverts d'esprit. Et donc, c'était plutôt, on n'osait pas poser. Et je pense qu'on était tous dans ce cas-là. Enfin, toute la classe en général était dans ce cas-là. Et donc, on n'osait pas forcément aborder ce sujet. Donc, on évitait plutôt le sujet. Et on rigolait quand ça parlait de ça, d'ailleurs. Et donc, parce qu'on voulait rentrer dans le moule un peu. Donc, voilà.
Oui, alors moi, je constate que... qu'il y a 45 ans ou aujourd'hui, il y a toujours une gêne pour aborder la sexualité. Enfin, en particulier dans le milieu scolaire, mais parce que j'entends qu'on rit beaucoup. Et moi, il y a 45 ans, c'était un peu ça. Il y avait cette même forme de gêne. Après, c'est vrai que pour ma part, c'était en quatrième. C'était une heure qui était consacrée sur tout le programme scolaire pour aborder la... Enfin, la sexualité, alors c'est même pas la sexualité, c'est plus l'anatomie du corps féminin, du corps masculin, mais on n'allait pas, et éventuellement la conception d'un bébé, mais on n'allait pas au-delà, quoi.
Moi personnellement, je pense que j'aurais été beaucoup gênée d'en parler, mais ce qui a beaucoup aidé, c'est que l'infirmière, avant la discussion, avait mis une boîte à questions. Et donc les questions étaient posées de façon anonyme et ça a beaucoup simplifié les échanges entre tout le monde parce qu'il y avait beaucoup de moqueries et je pense que quand on s'exprime en son nom, c'est plus compliqué.
Pas forcément libre, surtout avec les jeunes de notre âge. Parce qu'avec les adultes, on va dire que c'est un peu plus facile, je pense, parce qu'ils sont déjà un peu passés par là et donc du coup, ils sont un peu plus ouverts d'esprit comparé à la génération, la nouvelle génération.
On a peur de pas rentrer dans le moule et que nos camarades nous voient uniquement comme ça et qu'ils nous collent une étiquette et qu'on soit smoqués ensuite.
Avez-vous fait face à du jugement de la part de vos professeurs ou même camarades au cours de ces discussions, Alexandre?
J'ai déjà eu du jugement par rapport à mon prof d'SVT en 4e qui m'avait fait ça. C'était pas à moi directement, mais plutôt à la classe entière. Qui avait tenu des propos homophobes. Et ça m'avait déjà un peu choqué à l'époque qu'il l'ait dit comme ça, publiquement, parce que du coup, ça donnait l'impression à toutes les personnes de ma classe que l'homophobie était justifiée, que c'était quelque chose de normal. Personne n'avait réagi, et ça m'avait un peu choqué qu'on le laisse dire ça uniquement parce que c'était un professeur.
Mais il avait dit quoi exactement ?
Il avait parlé... de la pénétration anale, et il avait dit que c'était quelque chose de dégueulasse et de contre-nature, et qu'il fallait pas faire ce genre de choses, en faisant référence homosexuel.
C'est fort.
Avez-vous déjà abordé le consentement, les agressions sexuelles, Alexandre?
On a déjà abordé le cas des agressions sexuelles, mais très rapidement. On a juste abordé le cliché de l'inconnu dans la rue le soir, et... Heureusement, dans mon cas, on a aussi dit que ça pouvait arriver aux hommes. Par contre, le consentement, on l'a pas du tout abordé.
Zélie ?
Dans mon cas, on n'a pas non plus abordé le consentement. Par contre, on a parlé des agressions sexuelles uniquement de quelqu'un de majeur sur quelqu'un de mineur. Ça n'a pas du tout été abordé sur déjà entre deux personnes majeures ou deux personnes mineures. Et on a très peu parlé des conséquences que ça pouvait engendrer, que ce soit au niveau psychologique ou même au niveau de la loi, sur les conséquences.
Emma ?
Moi, personnellement, c'était pas à l'école qu'on a abordé ce sujet, c'est avec mes parents, enfin avec ma mère principalement, parce que ma mère travaille dans le social, donc on a pu en parler. C'était plutôt par rapport au consentement, tout ça, parce qu'il y a un moment, il y a eu la loi qui a passé en disant qu'ils voulaient changer la légalité sexuelle, ça soit 15 ans, ils voulaient changer à 13 ans à un certain moment. Et je me souviens que ça m'avait choquée parce que à 13 ans, on est encore jeune, on sait pas ce qu'on veut. Et du coup, c'est vraiment le seul moment où j'ai pu en parler et j'étais encore un peu... Enfin, je devais avoir 14 ans, un truc du genre. Et je me souviens que j'étais pas trop à l'aise à ce sujet. Pourtant, c'était avec ma mère. Donc j'imagine pas avec l'école, pour le coup.
Non, en fait, ça n'a jamais été abordé. Enfin, en tout cas, moi, quand j'étais au collège ou au lycée, ces questions-là n'ont jamais été abordées. Pour mes enfants non plus. Et je trouve ça vraiment dommage, et dommageable surtout, parce que la question de consentement, pour moi, elle est primordiale. Et c'est vraiment quelque chose à répéter. Et ça fait partie de l'éducation. Hein.
Selon vous, cela vous semble-t-il suffisant? Quel changement pourrait-on apporter? Emma?
Je pense, du coup, on pourrait apporter soit les écoles peuvent se permettre de pouvoir amener un professionnel dans les établissements pour pouvoir parler avec les jeunes, que ce soit en groupe ou alors individuellement, parce que je sais qu'il y a des fois, il y a des jeunes qui ont du mal à parler, que ce soit surtout en groupe et tout ça, autour de gens. Donc, de pouvoir peut-être former les professeurs à ça, pour pouvoir en discuter, ou même les infirmières, tout ça.
Zélie ?
Moi, je pense également qu'il faudrait former les professeurs ou les infirmières à avoir ce genre de discussion.
Oui, moi je pensais faire intervenir par exemple, c'est un exemple, mais par exemple des sexologues, et pas simplement pour parler des relations sexuelles, mais aussi des relations amoureuses, quelque chose de plus général et peut-être plus facile aussi à aborder.
Avez-vous abordé les questions des orientations sexuelles du genre ? Alexandre ?
Moi j'étais dans un collège très privé catholique. Du coup, non, on n'a pas du tout posé les questions. On nous a séparés entre les filles et les garçons. Et selon eux, ça semblait évident qu'il fallait être hétérosexuel, etc. Donc on n'en a pas du tout abordé.
Moi, personnellement, c'est un peu comme Alexandre. J'ai trouvé ça dommage qu'il ne nous ait pas parlé des relations sexuelles du même genre. Parce que il y avait beaucoup de personnes LGBT dans ma classe. Et ça aurait été pas mal d'en parler parce que les seuls informés, du coup, c'était les personnes hétéros. Et c'est un peu dommage, du coup. C'est un peu discriminatoire, je trouve.
Alors moi, je pense que... Enfin, dans mon cas, ça a été abordé. Comme c'était des questions anonymes, il y a eu beaucoup de questions anonymes sur notamment la protection dans les relations du même genre. Et par contre, les intervenants n'étaient vraiment pas renseignés sur le sujet. Elle a fait beaucoup de recherches internet devant nous et bon, c'était pas toujours très exact.
Oui.
Par rapport en particulier à la question de l'homosexualité, dans les années 70, il faut savoir que c'était encore interdit par la loi, que les homosexuels pouvaient être arrêtés, que jusqu'en 90, c'était encore dans les pathologies mentales. Donc, voilà, ça commence seulement, il n'y a pas si longtemps que ça, hein, quand on remonte 40 ans en arrière, c'était encore très très mal vécu. Donc, en tout cas, pour ma part, on n'abordait pas du tout, on abordait déjà difficilement la sexualité entre hétéros, mais alors la question de l'homosexualité était totalement taboue et interdite.
À part au cours dédié à la sexualité, comment peut-on s'éduquer à ce sujet? Avez-vous déjà abordé ce sujet avec vos parents? Alexandre?
Tout d'abord, je pense qu'on peut apprendre pas mal de choses sur les réseaux sociaux. Si on trouve les bonnes personnes, etc., on peut trouver, pour ceux qui n'ont pas la chance d'avoir des cours dédiés à ça, des professeurs ou quoi, on peut s'éduquer là-dessus. Il y a des sites, il y a des gynécologues, etc., qui informent beaucoup là-dessus. Ou alors, on peut, par exemple, justement, prendre des rendez-vous avec des sexologues, des gynécologues, etc. Mais c'est parfois difficile de prendre un rendez-vous si c'est les parents qui gèrent. Ou alors même à faire les démarches, ce qu'on peut sentir honteux ou se dire que c'est pas forcément assez important pour prendre la peine de prendre un rendez-vous. Et oui, c'est un sujet que j'ai déjà abordé pas mal de fois avec ma mère. On a peu de tabous dessus, donc je pense que c'est plutôt une chance de pouvoir en parler avec ma mère sans qu'il y ait forcément de honte et que je puisse pas mal parler, poser des questions, etc.
Moi, quand j'étais ado, c'était il y a longtemps. On n'avait pas Internet, on n'avait pas des... Voilà. Donc effectivement, c'était plutôt sur les livres encore, il n'y avait pas beaucoup non plus de livres qui traitaient de ce sujet. Et avec mes parents, c'était pas que c'était tabou, mais c'était pas, on n'en parlait pas. Enfin, c'était pas quelque chose de facilement abordable. Et du coup, ben, c'est par l'expérience, en fait, tout simplement. Et puis la discussion entre copains. Voilà.
Célie ? Alors moi, j'en ai beaucoup parlé avec mes parents. Et sinon, je me suis renseignée surtout sur dans les livres qu'on peut trouver dans les bibliothèques ou même les magazines qu'on peut trouver chez les gynécologues ou avec les sexologues.
Bah, moi, perso, c'est un sujet tabou dans ma famille. Donc, j'ai pas pu trop en parler avec mes parents. Et même si je devais, j'oserais même pas parce que, bah, encore une fois, c'est un sujet tabou. Et sinon, ouais, un peu comme Alexandre, les réseaux sociaux, Internet, tout ça, ça aide beaucoup pour le coup. Et c'est parti avec Taren de Angèle.
Si seulement elle savait comment tu la regardais, elle serait effrayée. Si seulement elle savait comment tu l'imaginais, elle pourrait t'abîmer. Mais laisse temps, elle pourrait vous donner une chance de vous retrouver. Il lui faudra du temps, c'est sûr, pour oublier tous ses préjugés. Mais tu voudrais qu'elle soit ta reine ce soir. Si de run c'est pas trop accepté, mais tu voudrais qu'elle soit ta reine ce soir. Toi le roi tu t'en fous, c'est pas ce qui te plaît. Si seulement elle savait comment tu l'envisageais, même si t'es une fille. Si seulement elle savait comment tu pourrais l'aimer tellement plus que lui. Et tu voudrais qu'elle soit ta reine ce soir. Même si de reine c'est pas trop accepté. Mais tu voudrais qu'elle soit ta reine ce soir. Toi les rois tu t'en fous, c'est pas ce qui te plaît. Mais tu voudrais qu'elle soit ta reine ce soir. Même si de reine c'est pas trop accepté. Mais tu voudrais.
Tu as une chronique à nous faire lire, c'est ça ?
Oui, j'ai une chronique à vous présenter.
Eh ben, nous t'écoutons donc.
Aujourd'hui, on va parler d'une branche du sexisme, les stéréotypes de genre. Tout d'abord, un stéréotype, par définition dans le dictionnaire, est une opinion toute faite réduisant les particularités. Dans ce cas, elle concerne les différences entre les hommes et les femmes. Donc d'abord, nous allons voir en quoi ces stéréotypes renvoient au physique de la personne concernée. Par exemple, on attribue des vêtements genrés selon le sexe de la personne, comme par exemple les robes, les jupes, les talons, les couleurs vives aux femmes. Pour les hommes, souvent quelque chose de plus sobre. Ce qui peut avoir des conséquences. Par exemple, chez les hommes, ils peuvent se faire agresser s'ils osent porter des vêtements plus féminins dans la rue ou quoi que ce soit. Et pour les femmes qui sont victimes d'agressions sexuelles, beaucoup sont jugées moins graves si la femme était en jupe, en débardeur ou pas beaucoup habillée. Selon un sondage, 27% des Français estiment que la responsabilité d'un violeur est moins impactée si la victime portait une tenue provocante.
Oh, c'est honteux.
Ce qui est assez choquant, toujours en 2023, parce que les chiffres sont assez récents, ils datent de 2021. De plus, ces stéréotypes ne s'arrêtent pas aux vêtements. Elles donnent des interdictions et des injonctions, par exemple aux femmes, comme s'épiler, être féminine, avoir les cheveux longs, se maquiller. Et pour les hommes aussi, il y a par exemple être viril, musclé, être grand, avoir les cheveux courts et avoir une pilosité apparente. Enfin, on voit que ces stéréotypes touchent aussi à un ensemble de gestes et d'actions, c'est-à-dire des comportements associés aux femmes et aux hommes. Par exemple, dès l'enfance, on pousse les petites filles à être gentilles, à être sensibles, à être belles, douces, agréables, à vivre, comme s'il n'y avait que ça d'important, et aux petits garçons à être forts et à refouler ses sentiments. On peut voir que ça a des conséquences à l'âge adulte. Par exemple, le nombre de consultations psy est beaucoup plus élevé chez les femmes que chez les hommes parce qu'elles sont éduquées à parler de leurs sentiments, du coup c'est plus facile de demander de l'aide. Et du coup, on voit que dans les suicides, 75% des personnes qui se suicident sont des hommes, soit 6750 morts par an en France.
Ouais, quand même.
On peut donc se demander, vu que ces préjugés sont prédominants dans la société, s'ils sont fondés sur des preuves scientifiques, pourquoi ils existent et s'ils ont un intérêt. Dans un premier temps, on remarque que ces préjugés n'ont aucun fondement scientifique. Selon le site psy.bi, les hommes et les femmes sont semblables à 97,83% dans leurs gènes, et les 2,17% restants résident plutôt dans le fonctionnement du cerveau. C'est-à-dire qu'il n'y a pas réellement d'instinct à faire le ménage ou d'instinct maternel qui n'existe pas, mais par exemple, le cerveau de la femme pèse en moyenne 1,3 kg, soit 200 g de moins que l'homme, a moins de synapses dans le cortex cérébral, mais davantage de neurones. Pour ce qui est l'origine des stéréotypes, elle date d'il y a longtemps. Elle vient de la capacité aux femmes de porter la vie, ce qui les a directement associées à la maternité, l'incapacité de travailler pendant la fin de la grossesse, ce qui fait les travailler moins, du coup elles sont considérées comme moins utiles, elles ont un plus petit salaire, et elles sont vues donc uniquement comme des machines à faire des gosses, ce qui réduit la femme à un objet et uniquement à la maternité. Un homme qui donc fait des comportements dits féminins, il est donc réduit à la femme, qui est considérée comme inférieure, et donc se rabaisse, ce qui est pourtant totalement faux. Ces stéréotypes n'ont pas d'intérêt, puisque ça sert uniquement à mettre des personnes dans des boîtes, à augmenter le nombre d'agressions chez les personnes qui sont atypiques, à mener à de l'harcèlement scolaire ou à une mauvaise estime de soi. Pour en finir avec les préjugés, c'est un long combat où tout le monde doit participer. Il faut sensibiliser dès le plus jeune âge à la diversité. Il faut pas prendre la défense de ceux qui critiquent les autres. Il faut pas apprendre à ne pas juger ceux qu'on qualifie de différents. Il y a une citation que j'aime beaucoup qui parle de ça. C'est « La différence est dans l'œil de celui qui regarde » d'Oscar Wilde. Ce qui signifie qu'on peut avoir l'impression que quelqu'un est différent parce que ça s'arrête uniquement à son physique. Mais en apprenant à connaître cette personne, on peut se rendre compte qu'on a peut-être plein de points en commun avec elle. Donc il ne faut pas uniquement se focaliser sur le physique.
Bon, merci.
Merci Alexandre.
Merci beaucoup. Nous continuons avec Normal d'Eddy de Préto.
Penses-tu que je suis responsable? Penses-tu que tu sors du tas? Penses-tu mais pour qui tu te prends? Je crois ça, t'es juste insultant. Tiens pour une fois, reste sans voix et rassure-toi, je ne contamine pas. Puis assure-moi qu'avec ton petit minois, tout restera simple et courtois. Non, ne m'accuse pas,
me descends pas de pédéraste jusqu'au bout des doigts. Si tu veux crier que tu es plus fort que tout, sans rouge vernis et fard à joues. Tu tentes de me tuer de tes remarques, de me vider à coups de hache. Mais jeune homme, sais-tu seulement que je me maquille pour te rentrer dedans. Ça y est, ça te glace le sang. Que tu sois gars ne soit qu'un minime détail, que tu sois charme tout presque comme une dame. N'en donne pas ton âme au diable. Et le pire, fais attention garçon, faire joujou dans ton petit pantalon peut me provoquer de fines réactions. Allez tourne-toi, dégage, que je tape le fond. Je suis complètement normal, complètement banal. Je suis complètement normal, je suis con, tellement malade. Je suis complètement normal, complètement banal. Je suis complètement normal, je suis con, tellement malade. Oups, pardon, j'ai eu tort. D'habitude, je mets des gants. J'ai laissé mes manières dehors. Pour un mec comme moi, c'est étonnant. Car oui, bon, je t'ai pas tout dit. Bienvenue là où tu peux faire ta comédie. Surtout jouer à faire ce que tu as envie. Attends de voir si ce soir tu me suis. Sinon, insulte-moi et descends-moi. De contre-nature ou la belle injure. Cette fois, ça te coince, ça te stresse. Allez, bouge et serre les fesses. Puis ne reviens plus voir avec tes gros sabots. Pour semer le fiasco en venant ici. En jetant des mots sans parcimonie. Des grands mots qui font froid dans le. Car je suis complètement normal, complètement banal. Je suis complètement normal, je suis con, tellement malade. Je suis complètement normal, complètement banal. Je suis complètement normal, je suis con, tellement malade. Si tu veux, certains se font des nœuds de secours, d'autres fabriquent des cabanes de clous. Certains se cachent à travers la foule et d'autres avis bien le refoule. Alors si toi tu te sens beaucoup plus sain dans ta petite vie, ton petit train-train, saute-les toutes et trace ta route. Ne t'en fais pas, bel assassin. Je suis complètement normal, complètement banal, con, tellement malade. Complètement banal, complètement normal, complètement banal. Es-tu complètement normal, complètement banal, complètement normal, complètement banal.
Alors, maintenant, nous avons un petit texte avec Didier.
Alors, moi, j'avais envie d'aborder plutôt le sentiment amoureux, la part du désir, parce qu'on a énormément parlé de sexualité. Et voilà, j'avais envie de faire un petit pas de côté. Pour ça, j'ai choisi un texte de Sarah Kane, qui est une dramaturge écrivaine de britannique, qui est décédée en 99 à l'âge de 28 ans. Suite à un suicide. Donc il s'agit de Manque de Sarah Kane. Et je veux jouer à cache-cache et te donner mes vêtements et m'asseoir sur les marches pendant que tu prends ton bain et te masser le cou et t'embrasser les pieds et te tenir la main et sortir dîner sans m'énerver quand tu manges dans mon assiette. Et te parler de la journée, et porter tes affaires, et rire de ta paranoïa, et regarder des films épatants, et regarder des films nuls, et prendre des photos de toi quand tu dors, et ne pas rire à tes blagues, et t'embrasser le dos, te caresser la peau, et te dire comme j'aime tes cheveux, tes yeux, tes lèvres, ton cou, et m'inquiéter quand tu es en retard, m'émerveiller quand tu es en avance, et te donner des tournesols, et aller à ta fête et y danser en devenir bleu. Et regarder tes photos, désirer t'avoir toujours connue, et entendre ta voix dans mon oreille, et te dire que tu es splendide, et te serrer contre moi quand tu es anxieux, et t'étreindre quand tu as mal, et avoir froid quand tu tires la couverture et chaud quand tu ne le fais pas, et m'attendrir quand tu souris, et fondre quand tu ris, et me demander qui tu es, t'accepter de toute façon. T'écrire des poèmes et me demander pourquoi tu ne me crois pas, et éprouver un sentiment si profond que je ne trouve pas les mots pour l'exprimer. Et avoir l'idée de t'acheter un chaton et je serais jaloux parce que tu t'occuperais plus de lui que de moi. Et te garder au lit quand tu dois t'en aller et pleurer comme un bébé quand tu finis par le faire. Et me débarrasser des cafards et t'acheter des cadeaux dont tu ne veux pas et que je remballe comme d'habitude. Et te demander en mariage pour que tu me dises non comme d'habitude et que je recommence malgré tout parce que même si tu penses que je ne le souhaite pas pour de bon, c'est exactement ce que je veux depuis ma toute première demande. Et errer dans la ville en trouvant que sans toi elle est vide, et vouloir ce que tu veux, et te raconter ce que j'ai de pire, et te donner ce que j'ai de mieux parce que tu ne mérites pas moi, et répondre à tes questions quand j'aimerais autant pas, et te dire la vérité quand je n'y tiens vraiment pas, et chercher à être honnête parce que je sais que tu préfères, et me dire tout est fini mais tenir 10 petites minutes avant que tu ne me sortes de ta vie, et oublier qui je suis, et chercher à me rapprocher de toi parce que c'est beau, d'apprendre à te connaître, et ça mérite bien un effort. Et peu importe comment, mais communiquer un peu de l'irrésistible, immortel, invincible, inconditionnel, intégralement réel, pluri-émotionnel, multispirituel, tout le fidèle amour éternel que j'ai pour toi.
Merci beaucoup, c'était
très bien lu.
Eh bien, nous avons fini et nous vous disons tous au revoir et à bientôt pour le prochain épisode.
Au revoir.
Au revoir. Au revoir. Au revoir.